4.
Il n'a rien,
dit Jake en reposant ôté sur le trottoir.
J'ai flippé, pas vrai? Je suis désolé.
C'est parfaitement compréhensible,
lui assura le révérend Harrigan.
Quel chien fascinant! Je n'en ai jamais vu de ce genre-là. Gloire à Jésus!
Et il se pencha vers ôté.
C'est un croisement,
dit Jake d'un ton tendu.
Et il n'aime pas les inconnus.
Ôté montra combien il n'aimait pas les inconnus et combien il s'en méfiait en levant la tête vers la main d'Harrigan et en aplatissant les oreilles pour se rendre plus facile à caresser. Il adressa un large sourire aux prêcheurs, comme s'ils étaient de vieux, très vieux copains. Pendant ce temps, Callahan inspectait les alentours. On était à New York. Et à New York, les gens avaient tendance à s'occuper de leurs affaires et à vous laisser vaquer aux vôtres. Mais Jake avait dégainé une arme en pleine rue. Callahan ne savait pas combien de personnes l'avaient vu, mais ce qu'il savait, en revanche, c'est qu'il suffisait d'une seule pour aller le signaler. Peut-être même à cet agent Benzik dont Harrigan avait parlé. Et pour leur créer des ennuis au moment où ça tombait le plus mal pour eux. Il examina Ôté et pensa
« Rends-moi service, ne dis rien, d'accord? Jake peut peut-être te faire passer pour une nouvelle race de corgi ou de colis dégénérés, mais à la seconde où tu te mettras à parler, ça sera complètement fichu. Alors fais-moi une faveur et ferme-la. » « Bon petit pote, » fit Harrigan.
Et après qu'Ôté eut miraculeusement tu le Ôté, qui lui venait immanquablement dans ce genre de circonstances, le prêcheur se redressa.
« J'ai quelque chose pour vous, Père Don. Une minute, je vous prie. Monsieur, il faut vraiment que nous... J'ai quelque chose pour toi aussi, fiston. Gloire à Jésus, très cher Seigneur. Mais d'abord, ça ne prendra qu'une seconde. »
Harrigan courut ouvrir la portière latérale de sa camionnette Dodge, garée en infraction, sauta à l'intérieur et se mit à farfouiller. Callahan fit preuve de patience pendant un petit moment, puis eut une conscience aiguë des secondes qui défilaient.
« Monsieur, je suis désolé, mais les voilà !»
s'exclama Harrigan en réémergeant de la camionnette, tenant une paire de mocassins marron fatigués par le pouce et les deux premiers doigts de la main droite.
« Si vous faites moins d'un 42, on pourra les bourrer de papier journal. Si vous faites plus, c'est pas de chance. »« 42, c'est exactement ma pointure, »
dit Callahan en hasardant même un « gloire à Dieu » pour accompagner son merci. En fait, il était plus à l'aise dans un 41, mais on n'en était pas loin. Et il enfila les chaussures avec une sincère gratitude.
« Et maintenant, nous allons... »
Harrigan se tourna vers le garçon et dit
« La femme que vous cherchez est montée dans un taxi, pile à l'endroit de notre petite altercation. C'était il y a une demi-heure à peine. »
En voyant changer l'expression de Jake, d'abord de l'étonnement, puis un véritable ravissement, il eut un grand sourire.
Elle a dit que c'était l'autre qui était aux commandes, que vous sauriez de qui il s'agissait et où l'autre l'emmenait.
« Oui, au cochon du Sud, » confirma Jake. « Au coin de l'Aix et de la 66e. Père, on a peut-être encore le temps de la rattraper, mais seulement si on part tout de suite. Elle... »«
Non !» fit Harrigan. « La femme qui m'a parlé, elle a parlé à l'intérieur de ma tête. C'était clair comme de l'eau de roche, gloire à Jésus. A dit que vous deviez d'abord passer par l'hôtel. »«
Quel hôtel ?» demanda Callahan. Harrigan indiqua du doigt l'hôtel Hyatt Plaza Park sur la 46e.
« C'est le seul dans le quartier, et c'est de là qu'elle venait. »«
Merci, » répondit Callahan.
« A-t-elle dit pourquoi nous devions aller là-bas ?»«
Non !» fit Harrigan d'un ton serein.
« Je crois qu'entre-temps, l'autre l'avait entendu et lui avait fermé son caquet. Et puis elle a sauté dans le taxi et... Pfuit !»
« En parlant de fuite, »
commença Jake. Harrigan hocha la tête, mais leva aussi un doigt en signe d'avertissement.
« Faites donc, mais rappelez-vous que les bombes divines vont tomber. Peu importe toutes les bénédictions, C'est bon pour ces mauviettes de méthodistes et ces épiscopaliens à l'air louche. Les bombes vont pleuvoir. Et au fait, les gars ?
Ils se retournèrent vers lui.
Je sais que vous autres, vous êtes des enfants du bon Dieu au même titre que moi, parce que j'ai senti votre sueur, gloire à Dieu. Mais ces dames d'ailleurs, parce qu'en fait je crois qu'elles étaient deux. Elles, c'est quoi ?
La femme que vous avez rencontrée est avec nous, répondit Callahan après une brève hésitation. Tout va bien.
Je me demande, dit Harrigan. Comme dit la Bible, gloire à Dieu et à sa sainte parole, il faut se méfier de la femme, car ses lèvres sont douces comme le miel, mais ses pieds descendent vers la mort et ses pas prennent appui sur l'enfer. Écarte ton chemin du sien et ne t'approche pas de la porte de sa maison.
Joignant le geste à la parole, il avait levé une main tordue en signe de bénédiction. Il la baissa et haussa les épaules.
C'est pas vraiment exact. Je n'ai pas une aussi bonne mémoire des Écritures que dans ma jeunesse, quand je prêchais là-bas dans le sud, avec mon papa. Mais je pense que vous avez saisi l'idée.
C'est dans le livre des Proverbes, fit Callahan.
Harrigan acquiesça.
Chapitre 5. Gloire à Dieu!
Puis il se détourna et contempla l'immeuble qui se dressait derrière lui, se découpant sur fond de ciel nocturne. Jack fit mine de partir, mais Callahan l'arrêta en lui posant la main sur l'épaule. Quand le jeune garçon haussa les sourcils d'un air interrogateur, Callahan ne put que secouer la tête. Non, il ne savait pas pourquoi, mais il n'en avait pas terminé avec Harrigan.
« Cette cité est rongée par le péché, elle est malade de ses vices, » finit par dire le prêcheur. Sodome au rez-de-chaussée, Gomorre au troisième, tous prêts pour la bombe divine qui ne va pas manquer de tomber des cieux. Alléluia, d'où Jésus et Amen. Mais ici, c'est un endroit bon. Vous le sentez, les gars ?
Oui,
répondit Jake.
Vous l'entendez ?
Oui,
répondirent en chœur Jake et Callahan.
Amen. « Je pensais que tout s'arrêterait quand ils ont détruit la petite épicerie qui se tenait là, il y a des années et des années de ça. Mais non, ces voix angéliques... »«
Ainsi parle Gan, le long du rayon, » dit Jake.
Callahan se tourna vers lui et vit que le garçon penchait la tête de côté et que se lisait sur son visage un air d'extase sereine. Jake reprit...
Ainsi parle Gan, et avec la voix des Kankala, que certains appellent des anges, Gan renie les Kantois. Avec le cœur joyeux des innocents, il renie le roi cramoisi et Discordia même.
Callahan le contemplait, les yeux écarquillés, et le regard plein de crainte. Mais Harrigan se contentait de hocher la tête d'un air impassible, comme s'il connaissait la chanson. Peut-être que c'était le cas.
« Après l'épicerie, il n'est resté qu'un terrain vague, et puis ils ont construit ça. Le 2 à Marsholt Plaza. Et je me suis dit, voilà, ça va tout détruire, alors je changerai de décor, car la poigne de Satan est ferme et ses pieds fourchus laissent des empreintes profondes dans le sol. Et là, nulle fleur ne s'épanouira et nulle graine ne germera. Pouvez-vous dire si là ?»
Il leva les bras et ses mains noueuses de vieillard qui tremblaient des premiers signes de la maladie de Parkinson, et il les tourna vers le ciel, dans ce geste immémorial de louange et de soumission.
« Et pourtant elle chante toujours, » dit-il en laissant retomber ses mains. « Silla, » fit Callahan, « vous dites vrai, nous vous disons grand merci. C'est bien une fleur, une vraie, » reprit Harrigan. « Parce qu'une fois, je suis entré voir. Dans le hall, alléluia, je dis bien le hall, entre la porte sur la rue et les ascenseurs montant vers ces étages, où Dieu sait combien de baisses tarifées se pratiquent tous les jours. Il y a un petit jardin, baigné par la lumière du soleil qui tombe par la verrière.
Un jardin encadré par des cordes en velours, avec un panneau qui dit « Don de la Tête Corporation, en hommage à la famille du Rayon et en mémoire de Gilead. »
« Vraiment ?»
demanda Jake, le visage illuminé d'un sourire heureux.
« Vous dites ainsi, Sayarigan ?»«
Mon garçon, croix de bois, croix de fer, bombe divine. Et au milieu de toutes ces fleurs pousse une unique rose sauvage. Tellement magnifique qu'en la voyant, je me suis mis à sangloter, comme ceux arrivés sur le bord des fleuves de Babylone qui coulent près de Sion. Et les hommes qui vont et viennent dans ce lieu avec leurs attachés caisses remplis des paperasses de Satan, eux aussi sanglotaient. Ils ont sangloté avant de retourner à leurs œuvres putassières, comme s'ils n'avaient rien vu.
Ils ont vu,
dit Jake d'une voix douce.
Vous savez ce que je crois, monsieur Harrigan? Je crois que cette rose est un secret qu'ils gardent dans le plus profond de leur cœur, et que si quiconque le menaçait, ils se battraient pour le protéger. Sans doute jusqu'à la mort.
Il leva les yeux vers Callahan.
« Père, il faut y aller. »«
Oui. Ça me paraît une bonne idée, » acquiesça Harrigan. « Car mes yeux voient revenir l'agent Benjik, et il serait peut-être opportun que vous soyez parti quand il arrivera ici. Je me réjouis que ton ami à fourrure ne soit pas blessé, mon jeune garçon. »«
Merci, monsieur Harrigan. »«
Ce n'est pas plus un chien que moi une citrouille, pas vrai ?»«
Non, monsieur. »
dit Jake avec un large sourire.
« Méfiez-vous de cette femme, les gars. Elle m'a mis une pensée dans la tête. Moi, j'appelle ça de la sorcellerie. Et elle était deux. »
« Jumeaux 10 du Ox, » commenta Callahan. Puis, apparemment, sans même y réfléchir lui-même, il esquissa un signe de croix en face du prêcheur.
« Merci pour votre bénédiction, païenne ou pas. » dit Earl Harrigan, visiblement touché.
Puis il se tourna vers l'agent de la police de New York et l'interpella d'un air jovial.
« Agent Benjik, quel plaisir de vous voir. Eh, vous avez de la confiture sur votre col, juste là, gloire à Dieu !»
Et pendant que l'agent Benjik se tordait le cou pour examiner son col d'uniforme, Jake et Callahan s'esquivèrent. 5.
« Waouh !»
fit Jake à mi-voix, tandis qu'ils approchaient de l'entrée illuminée de l'hôtel. Une limousine blanche au moins deux fois plus longue que n'importe quel modèle qu'il avait été donné à Jake de voir dans sa vie, et il en avait vu des tas. Une fois son père l'avait même emmené à la cérémonie des Oscars. Déverser son chargement d'hommes en smoking et de femmes en robe de soirée, tous en train de rire. On aurait dit que le flot ne s'arrêterait jamais.
« Oui, hein ?» acquiesça Callahan. « On se croirait à la fête foraine, n'est-ce pas ?»«
On n'est même pas censé être là, »
répondit Jake.
« C'était le boulot de Roland et d'Eddie. Nous, on devait aller chercher Calvin Tower. »«
Quelque chose en a décidé autrement, apparemment. »«
Ouais, ben quelque chose aurait dû y réfléchir à deux fois, »
dit le jeune garçon d'un air morne.
« Un gamin et un prêtre, avec en tout et pour tout un pistolet, c'est à mourir de rire. Quelle chance on a si le cochon du Sud est rempli de vampires et d'ignobles venus se détendre un peu entre amis ?»
Callahan ne trouva rien à répondre, bien que la perspective d'aller rechercher Susanna au cochon du Sud le terrifia littéralement.
« Qu'est-ce que c'était que cette histoire de Gann que tu nous as débitée ?»
Jake secoua la tête.
Pas la moindre idée. Je me rappelle à peine ce que j'ai dit. J'imagine que ça fait partie du Shining, père. Et vous savez où je crois l'avoir attrapé?
C'est Mia.
Le garçon opina du chef. Otte trottinait sagement à ses talons, son long museau lui touchant presque le mollet.
Et j'ai aussi récolté autre chose. Je n'arrête pas de voir ce noir dans une cellule de prison. Il y a un bruit de radio en fond sonore qui énumère tous ces morts. Les Kennedy, Marilyn Monroe, George Harrison, Peter Sellers, Isaac Rabin. Celui-là, je ne sais pas qui c'est. Je me dis que ça doit être la prison d'Oxford dans le Mississippi, où Odetta Holmes est restée enfermée quelque temps.
Mais c'est un homme que tu vois, pas Susanna, un homme.
Oui, avec une moustache en brosse, et il porte de drôles de petites lunettes cerclées d'or, comme un magicien dans un conte de fées.
Ils s'arrêtèrent juste devant le halo lumineux de l'entrée de l'hôtel. Un portier en queue de pie verte sifflait comme un perdu dans son petit sifflet argenté pour appeler un taxi.
« C'est Gann, tu crois ? Cet homme noir dans sa cellule, c'est Gann ?»«
Je ne sais pas »,
répondit Jake en secouant la tête d'un air frustré.
« Il y a aussi des images du Dogan, tout se mélange. »
« Et ça te vient du Shining ?»«
Oui, mais ça ne vient ni de Mia ou Susanna, ni de vous et moi. Je pense que... »
Jake baissa la voix.
« Je pense que je ferais bien de comprendre qui est cet homme et ce qu'il nous veut, parce que j'ai bien l'impression que ce que je vois vient de la tour elle-même. »
Il adressa à Callahan un regard solennel.
« D'une certaine façon, nous arrivons tout près. » Et c'est pourquoi il est tellement dangereux pour le cathète d'être brisé comme il l'est actuellement.
D'une certaine façon, on y est déjà.
6. C'est Jake qui prit complètement les choses en main. Tout en douceur, à partir du moment où il franchit les portes à tambour avec Ôté dans les bras. Puis il posa le bafou bafouilleux sur le sol carrelé du hall. Callahan eut l'impression que le garçon ne s'en rendait pas même compte, et c'était probablement beaucoup mieux ainsi. S'il commençait à se regarder agir, sa confiance en lui pourrait bien s'écrouler. Ôté renifla délicatement son propre reflet vert dans l'un des murs vitrés, puis il suivit Jake jusqu'au guichet, ses griffes cliquetant faiblement sur le marbre noir et blanc en damier. Callahan marchait à côté de lui, conscient qu'il était en train de contempler l'avenir, et essayant de ne pas se faire remarquer en écarquillant trop les yeux.
« Elle est bienvenue, » dit Jake. « Père, je la vois presque. Toutes les deux, elle et Mia. »
Avant que Callahan ait pu répondre, Jake était au guichet.
« J'implore votre pardon, madame. Je m'appelle Jake Chambers. Avez-vous un message pour moi ou un paquet ?» « Quelque chose ? De la part de Susanna Dean ou peut-être de Mademoiselle Mia ?»
La jeune femme jeta un regard dubitatif en direction d'Ôté. Ce dernier leva la tête et lui adressa un énorme sourire qui lui découvrit presque toutes les dents. Peut-être cela déconcentra-t-il l'employé, car elle se détourna les sourcils froncés et examina son écran d'ordinateur.
« Chambers, vous dites ? Oui, madame. »
Il avait pris sa meilleure voix possible, sa voix « je m'entends très bien avec les adultes ». Il y avait une éternité qu'il n'avait plus à s'en servir, mais elle était toujours là, et il se rendit compte qu'il n'avait aucun mal à reprendre les vieux accents.
« J'ai bien quelque chose pour vous, mais ça ne vient pas d'une femme, c'est d'un certain Stephen King. »
Elle sourit.
« Pas l'écrivain célèbre, je suppose. Vous le connaissez ?»« Non, madame. »
répondit Jake en glissant un regard de côté à Callahan. Aucun d'eux n'avait jamais entendu le nom de Stephen King jusqu'à très récemment, mais Jake comprenait pourquoi ce nom pouvait donner la chair de poule à son compagnon de route actuel. Callahan n'avait pas particulièrement l'air d'avoir la chair de poule, mais sa bouche n'était plus qu'une fine ligne.
« Eh bien ?» ajouta la jeune femme. « Je suppose que c'est un nom courant, non ? Il y a probablement des Stephen King normaux aux quatre coins de ce pays qui aimeraient juste qu'il... je ne sais pas, qu'il fasse le mort. »
Elle eut un petit rire nerveux, et Callahan se demanda ce qui pouvait l'avoir mise mal à l'aise. Était-ce Ôté qui avait l'air de moins en moins canin à mesure qu'on le regardait ? Peut-être, mais Callahan pensait qu'il était plus probable que ce soit en rapport avec Jake. Quelque chose qui chuchotait « danger ». Peut-être même « pistolero ». À l'évidence, quelque chose en lui le distinguait des autres garçons, et pas qu'un peu. Callahan le revit en train de dégainer le rugueur de son croc de débardeur et le coller sous le nez de ce malheureux chauffeur de taxi.
« Dites-moi que vous conduisiez trop vite et que vous avez failli écraser mon ami !»
avait-il hurlé, le doigt déjà blanc sur la détente.
« Dites-moi que vous ne voulez pas mourir ici dans la rue avec un trou dans la tête !»
Était-ce ainsi qu'était censé réagir un gamin de 12 ans qui venait d'éviter de justesse de se faire renverser ? Callahan pensait que non. Il se dit que l'employé avait raison de se sentir nerveuse. Quant à lui, il se rendit compte qu'il se sentait un peu plus rassuré quant à leur chance de s'en tirer au cochon du Sud. Pas beaucoup plus, mais un peu. 7. Jake, sentant peut-être ce que la situation avait d'un peu décalé, décocha à l'employé son sourire « Je m'entends très bien avec les adultes, le plus éblouissant ». Mais pour Callahan, il rappelait vraiment celui d'Otay. Trop de dents.
« Un instant, je vous prie »,
dit-elle en se détournant. Jake adressa à Callahan un regard perplexe, du genre « Mais qu'est-ce qui lui prend à cette fille ?» Callahan haussa les épaules et tendit les mains devant lui en signe d'ignorance. L'employé alla jusqu'à un placard, l'ouvrit, fouilla dans une boîte rangée à l'intérieur et revint au guichet avec à la main une enveloppe estampillée du logo du Plaza Park. Le nom de Jake, ainsi qu'une autre inscription, apparaissait sur l'enveloppe. Une partie était tapée à la machine, l'autre écrite à la main. Jake Chambers, ceci est la vérité. Elle fit glisser l'enveloppe en direction de Jake, prenant bien garde que leurs doigts ne se touchent pas. Jake la prit et la palpa sur toute la longueur. Il y avait un morceau de papier à l'intérieur. Autre chose aussi. Une bande étroite, rigide. Il déchira l'enveloppe et en sortit le contenu. Il découvrit, plié en deux, le rectangle blanc plastifié d'une carte magnétique de l'hôtel. Un petit mot était griffonné sur un post-it humoristique portant l'inscription « Les guignols à rappeler ». Le message lui-même ne comportait que 3 lignes. Hey, « Hé, copain, y a pas à s'inquiéter. Pas de souci, tu as la clé. Est-ce que Sheck regarde bien Jake ? Elle est rouge, cette clé. » Jake examina la carte magnétique et vit comme un tourbillon de couleurs apparaître au centre, l'atteignant presque instantanément en rouge sang.
Elle ne pouvait pas changer de couleur tant que je n'en avais pas vu la couleur de ce message,
se dit le garçon avec un petit sourire. Il leva les yeux pour voir si l'employé avait vu la clé magnétique virée au rouge et constata qu'elle avait trouvé une autre occupation à l'autre bout du comptoir. Et Callahan regardait avec attention 2 femmes qui venaient d'entrer par la grande porte. Il avait beau être père, se dit Jake, il gardait un œil bien entraîné avec les dames. Jake se concentra de nouveau sur le morceau de papier et lut la dernière ligne. « Hé, l'ami, faudrait pas se tromper. Elle est bien en plastique, cette clé. » Quelques années auparavant, ses parents lui avaient offert un kit de magie pour Noël. Avec l'aide du mode d'emploi, il avait confectionné de l'encre magique. Les mots qu'il avait écrits avec avaient disparu presque aussi rapidement que ceux du mot qu'il avait sous les yeux. Mais en y regardant de plus près, on distinguait encore le message qu'il avait inscrit à l'encre de magicien. Alors que celle-ci avait réellement disparu, et Jack savait pourquoi. Elle avait rempli son rôle. On n'en avait plus besoin. Idem pour le message concernant la clé qui devenait rouge. Et pas de doute, il était lui aussi en train de disparaître. Seule restait la première phrase, comme s'il fallait se la rappeler. « Hé, copain, y a pas à s'inquiéter. Pas de souci, tu as la clé. » Était-ce réellement Stephen King qui avait envoyé ce message ? Jake en doutait. Il était plus probable que l'un des joueurs de cette grande partie, peut-être même Roland ou Eddie, avait emprunté ce nom pour attirer son attention. Il demeurait que, depuis son arrivée ici, il avait croisé 2 signes extrêmement encourageants. Le premier avait été le chant continu de la rose. Il était plus fort que jamais, bien qu'un gratte-ciel ait poussé sur le terrain vague. Le second c'était que Stephen King était visiblement encore vivant, 24 heures après avoir créé le compagnon de route de Jake. Et il n'était plus seulement un écrivain. Il était un écrivain célèbre. Super ! Pour l'instant, les choses avançaient plutôt sur les bons rails, même s'ils étaient un peu branlants. Jake saisit le père Callahan par le bras et le mena jusqu'à la boutique de cadeaux et le piano de cocktail qui jouait dans son coin. Otey les suivit, à pas de loup, juste derrière Jake, à hauteur de son genou. Le long du mur, ils trouvèrent une série de téléphones internes.
« Quand l'opératrice répondra, dites que vous voulez parler à votre amie Susanna Dean ou à son amie Mia. »«
Elle va me demander le numéro de chambre, » objecta Callahan.
« Dites que vous avez oublié, mais que c'est au 19e étage. »
« Comment est-ce que tu... »«
Ce sera au 19e. Faites-moi confiance. »«
Je te fais confiance, » dit Callahan. Le téléphone sonna deux fois, puis l'opératrice demanda ce qu'elle pouvait faire pour eux.
Callahan le lui dit. Elle le mit en relation et dans une chambre du 19e étage, un téléphone se mit à sonner. Jake regarda le père parler dans le combiné, puis se remettre à écouter avec un petit sourire ébahi sur le visage. Au bout de quelques secondes, il raccrocha.
« Une machine qui répond !» s'exclama-t-il. « Ils ont une machine qui prend les messages des clients et qui ensuite les enregistre. Quelle invention merveilleuse !»«
Ouais, » commenta Jake. « Quoi qu'il en soit, on sait maintenant qu'elle est sortie. Et on peut être presque certain qu'elle n'a laissé personne pour surveiller son Guna. Mais bon, juste au cas où... »
Il tapota le devant de sa chemise, sous laquelle était à présent dissimulé le regard. Tandis qu'il traversait le hall vers les ascenseurs, Callahan dit
« Que va-t-on chercher dans sa chambre ?»«
Je ne sais pas. »
Callahan lui posa la main sur l'épaule.
« Je crois que si. »
Les portes de l'ascenseur du milieu s'ouvrirent d'un seul coup et Jake pénétra dans la cabine, Otey toujours sur ses talons. Callahan les suivit, mais Jake trouva qu'il traînait un peu les pieds tout à coup.
« Peut-être, »
admit Jake quand la cabine se mit en branle.
« Et peut-être que vous aussi. »
Soudain, Callahan eut l'impression d'avoir l'estomac très lourd, comme s'il sortait de table après un repas très copieux. Le poids de la peur, sans doute.
« Je croyais en être débarrassé quand Roland te l'a sorti de l'église. J'ai vraiment cru en être débarrassé. »«
Il y a des guignes noires qui vous collent à la peau, » dit Jake.
8. Jake était prêt à essayer son unique clé rouge dans toutes les portes du 19e étage, s'il le fallait. Mais il savait déjà que la 1919 serait la bonne, avant même d'essayer. Callahan aussi, et un voile de sueur apparut sur son front. Un voile fin et brûlant, comme la fièvre. Même Otey le savait. Le bafouilleux se mit à gémir d'inquiétude.
« Jake, » dit Callahan, « il faut qu'on y réfléchisse un peu. Cette chose est dangereuse. Pire, elle est maléfique. »«
C'est pour ça qu'il faut qu'on la prenne, »
dit Jake d'un air patient. Il se tenait devant la porte 1919 et tambourinait des doigts sur sa carte magnétique. De derrière la porte et de sous la porte, à travers la porte, montait un bourdonnement ignoble, comme la mélopée de quelque idiot chantant l'Apocalypse. Venait s'y mêler le chant d'un carillon strident et faux. Jake savait que le cristal avait le pouvoir d'envoyer Vahadash et dans ces espaces ténébreux et sans porte dont il était plus que probable qu'on ne revenait jamais et où l'on errait à jamais. Même en retrouvant le chemin d'une autre version de la Terre, on découvrait un décor balayé de ténèbres étranges, comme si le soleil était toujours sur le point de sombrer dans une éclipse totale.
« Tu l'as déjà vu ?»
demanda Callahan. Jake secoua la tête.
« Moi, si !»
fit Callahan d'un air lugubre, en essuyant du bras le film de sueur sur son front. Ses joues étaient devenues de plomb.
« Elle a un œil. Je pense que c'est l'œil du roi cramoisi. Je pense que c'est une partie de lui enfermée là pour toujours, une partie démente. Jake, emportez cette boule au milieu des vampires et des ignobles, tous serviteurs du roi. Ce serait comme offrir une bombe nucléaire à Adolf Hitler pour son anniversaire.
Jake savait très bien que la 13e noire était capable de causer des dégâts gigantesques, peut-être même sans limite. Mais il savait aussi autre chose.
Père, si Mia a laissé la 13e noire dans cette chambre et qu'elle s'apprête à se rendre là où ils sont, eux, ils le sauront assez vite. Et ils viendront la chercher dans l'une de leurs grosses voitures criardes avant qu'on ait le temps de dire ouf.
On ne pourrait pas la laisser pour Roland ?
Suggéra Callahan d'un air malheureux.
Si, répondit Jake. C'est une bonne idée, aussi bonne que celle de l'amener au cochon du Sud est mauvaise. Mais on ne peut pas la lui laisser ici.
Sur ce, avant que Callahan ait pu ajouter quoi que ce soit, Jack glissa la carte magnétique rouge sang dans la fente au-dessus du bouton de la porte. Ils entendirent un grand clic et la porte s'ouvrit.
« Otte, tu restes ici, devant la porte. Hack !»
Il s'assit, enroulant sa queue de dessin animé en tortillon autour de ses pattes, et leva vers Jake des yeux remplis d'angoisse. Avant d'entrer, Jake posa une main fraîche sur le poignet de Callahan et prononça cette terrible phrase.
« Prenez garde à votre esprit.